Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à En toute bonne foi. Je serai seule cette semaine pour vous présenter un bienheureux peu connu. Je remercie les éditions Pierre Tecky qui m'ont offert deux livres sur ce fou de Dieu qui sans doute accompagnera de nombreux jeunes dans leur chemin de foi. Là, je m'adresse aux parents, grands-parents et parrains-marraines. N'hésitez pas à offrir les deux livres sur lesquels je me suis reposée pour vous présenter ce jeune béatifié par Saint Jean-Paul II. Les deux livres s'intitulent « Bienheureux Karl Leissner » de Joachim Schmidl dans la collection « Les témoins de l'amour » chez Pierre Tecky, éditeur. Et pour les jeunes jusqu'à 16 ans, il sera préférable d'offrir « Karl Leissner, martyr du nazisme » de René Lejeune, toujours chez Pierre Tecky, éditeur. Mais ce livre-là a été édité dans la collection « Les Sentinelles ». C'est une très bonne collection où vous retrouverez d'autres vies de saints. Très bon cadeau à offrir. Si vous avez besoin de retrouver ces informations, n'hésitez pas à remplir le formulaire en ligne qui se trouve dans l'onglet « Contact » du site de Radio Courtoisie ou de nous envoyer une lettre à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris, et vous mettez à « En toute bonne foi ». Alors à présent, plongeons-nous en 1915. Le 22 juin, il y a la percée allemande en Russie. Le 23 juin, l'attaque italienne contre les troupes austro-hongroises sur l'Isonzo. Le 7 juillet a lieu la première conférence interalliée à Chantilly, visant à coordonner les offensives sur le front ouest, italien et serbe. Le 9 juillet, il y a la capitulation allemande en Afrique du Sud. N'oublions pas le génocide arménien, le début de la bataille des Dardanelles, mais aussi l'arrivée de Gandhi en Inde. Ce sont aussi les premières apparitions de quelque chose aux trois petits-enfants de Fatima, prélude aux apparitions mariales qui suivront en 1917. C'est donc dans ce contexte que le dimanche 28 février 1915, à 8h45, à Rees, petite ville médiévale allemande, non loin de la Hollande, que naît Karl Leissner, aîné d'une famille de cinq enfants. Son papa, Wilhelm, a 29 ans, il est trésorier du tribunal de première instance, il est ordonné, ferme, profondément catholique. Sa mère, Amalie, est aimable et bienveillante, on l'a dit paisible et conciliante. En grandissant, Karl voue à ses parents des sentiments emplis de tendresse et d'admiration. Une chose marque son entourage, son visage dégage une lumière secrète qui frappe lorsqu'on se trouve en sa présence. Une chose marquera profondément Karl durant son enfance. Il aimait les spectacles, nous le verrons plus tard. Il n'a que 5 ans et fait déjà du théâtre. Alors un rôle le touche particulièrement, c'est celui de Saint-Pierre qu'il a joué en robe blanche et sandales. Il portait des clés en main et était censé marcher sur les routes pour évangéliser. Les parents déménagent à Clèves, où il restera jusqu'à son entrée au séminaire. Il vit dans une famille unie où la rigueur est de mise. La journée se déroule toujours sous le regard de Dieu. La prière du matin et du soir se fait autour des parents dans un coin du salon aménagé en oratoire. À 11 ans, en 1926, Karl entre au collège et il fera une rencontre déterminante. En effet, il y rencontre l'aumônier, l'abbé Walter Winnenberg. Cet abbé était connu pour son charisme auprès des jeunes. Très impliqué, sportif, il suscite les élèves à toujours pratiquer le dépassement de soi. Il les initie au spectacle de marionnettes et cela fonctionne si bien qu'ils donneront de nombreuses représentations jusqu'aux villages alentours. Un groupe plus établi se forme autour de l'abbé Winnenberg, Karl est désigné secrétaire de ce comité. À partir de ce moment-là et jusqu'à sa mort, il tiendra un journal intime qui a permis aux historiens de posséder des milliers d'informations sur la vie du bienheureux. Karl n'y relate pas seulement les circonstances et événements de sa vie, mais aussi les passions et désirs, les progrès et les chutes qui l'enchantent ou le secouent intérieurement. Pour un garçon de 13 ans, la narration et le style sont déjà étonnants. Une fois par mois en hiver, deux fois durant l'été, le groupe pédale par Mons et par Vaud. Là, je ferai bien un lien avec Pierre Giorgio Frassati que nous avions évoqué en septembre, qui avait aussi, mais un peu plus âgé, un groupe d'amis avec lesquels il partait en randonnée, prier, vivait, comme des jeunes assoiffés d'idéaux, religieux, amicaux dans un esprit de quête d'excellence. Mais revenons à Karl Leissner dont nous parlons aujourd'hui. L'abbé Winnenberg, qui était, je le rappelle, l'aumônier de son collège, se rend rapidement compte du don de meneur que possède le jeune homme. De plus en plus, il lui confie les rênes des différentes activités proposées aux jeunes. Pédagogue, il entraîne ses camarades, non seulement dans le jeu, mais dans la croissance intérieure. Plus les mois passent, plus nous découvrons la situation de l'Allemagne qui évolue. Mais tout est encore très calme. Serait-ce une parole prophétique qu'il écrit dans son journal intime alors? Il raconte le départ d'Allemagne du cardinal Eugenio Pacelli, évoquant la possibilité qu'il soit le prochain pape. Rappelons que celui-ci sera effectivement pape en 1939 sous le nom de Pie XII. Alors, en 1929, c'est un déchirement parce que l'abbé Winnenberg est muté à Münster en Westphalie. Tout le monde déplore ce départ. Karl maintiendra une correspondance avec l'abbé pendant de longues années et un peu plus, nous le verrons plus loin. Il faut à présent quelqu'un pour le remplacer dans sa tâche auprès des jeunes. C'est Karl qui prendra la relève. La responsabilité repose désormais sur les épaules de ce jeune garçon de tout juste 14 ans. Nous avons parlé de son côté meneur, pédagogue, mais tout cela repose sur des règles de vie qu'il s'impose. Il veut mettre de l'ordre dans sa vie et ses pensées. Il écrit donc ce sur quoi il veut être attentif. Je vais vous lire ce qu'il souhaite pour lui alors. C'est quand même étonnant de maturité. Intérieurement, pas de pensée indigne, désordonnée, vulgaire, de l'honnêteté. Extérieurement, toujours des habits et une attitude correcte, à table. Distinction et politesse. Pas d'emportement ni de bavardage, de l'honnêteté. Dans mes affaires, prendre soin de mes livres, du journal, des affaires, du groupe. Prendre conscience de ton devoir de chef. À l'égard des autres, sois honnête, clair, poli, noble. À l'égard des jeunes filles, discipline intérieure et tenue. Le matin, lever rapide et ponctuel. Ensuite, sois précis et rapide sans tarder un sursum vers le Seigneur. Fuis tout laisser aller. Commence la journée avec courage et piété. Pas d'hypocrisie, pas de vantardise, davantage d'actions secourables. Rapporte toutes choses au Christ. Lis assidûment la Bible. Davantage d'applications en tout, bien plus d'applications. De l'amour pour tout être humain, au diable l'égoïsme vorace, c'est-à-dire le péché. Réfléchir calmement, puis agir avec audace. À lire ceci, on pourrait croire que finalement nous avons affaire à un jeune homme austère, mais pas du tout. Vous découvrirez dans ces deux livres sur lesquels je me repose que cette rigueur n'a en aucun cas rebuté les jeunes et leur entourage. Il s'imposait cela à lui-même car il se connaissait faible. Il voulait les éliminer tous ses défauts, mais reconnaissait combien tout cela était difficile car relevé du combat spirituel. Le groupe de jeunes qu'il mène désormais part à Hambourg, accompagné de l'abbé Winnenberg durant l'été 1929. Ils se rendent auparavant à Tegel, en Westphalie, un haut lieu de pèlerinage de la Vierge des Douleurs. Nous allons à présent faire une petite pause avant de reprendre.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Les voyages avec les jeunes se poursuivent. L'abbé Winnenberg, lorsqu'il le peut, les accompagne. Karl a alors 17 ans. Avec son frère Willy et le fidèle abbé, ils ont prévu un périple de 1300 km à vélo. Celui-ci débute par un pèlerinage à Kevler pour se mettre sous la protection de la Sainte Vierge. Kevler se trouve en Rhénanie. C'est l'un des sanctuaires les plus fréquentés en Allemagne. Le 25 décembre 1641, la Vierge y apparaît à Heinrich Bussmann. « Je veux que tu me construises une chapelle à cet endroit », dit l'apparition. Le lendemain, son épouse raconte qu'elle a vu en rêve une chapelle dans une lumière merveilleuse. Heinrich se confie au père Jakob Schink, qui accueille favorablement son témoignage, et une petite chapelle y est alors bâtie. Durant la Seconde Guerre mondiale, ce sanctuaire a été sauvé par un officier qui refusa d'obéir à l'ordre de le faire sauter. Les prières et les neuvaines de la population locale furent ainsi exaucées. Durant ce périple, le frère de Karl a un terrible accident. Il se trouve entre la vie et la mort. Karl est bouleversé et implore le ciel de garder son frère en vie et il s'en sortira. Nous parlons des activités de Karl, mais tout cela fut sans doute possible car Karl était bon à l'école. Il fait peut-être preuve d'orgueil car il juge avec sévérité les professeurs qu'il trouve médiocres. La fonction d'enseignant revêt pour lui une haute idée de sa fonction. En 1932, les élections législatives voient un raz-de-marée en faveur d'Hitler. En 1933, il est élu chancelier. Karl note dans son journal intime « Jour noir pour l'Allemagne ». Karl vient d'avoir 18 ans et lucidement voit ce qui se profile pour son pays. Il confie à son journal la nécessité de l'unité intérieure dans le combat spirituel dans lequel les événements engagent plus que jamais les catholiques. Autre moment fort dans la vie de Karl, Schönstatt. En octobre 1914, le père Kantenich, fondateur du mouvement, et quelques jeunes concluent avec Marie une alliance d'amour dans une petite chapelle. Un lieu de grâce est né. Karl pénètre alors dans un vigoureux univers d'une œuvre apostolique unique dans l'Église. La spiritualité de Schönstatt est l'alliance entre Dieu et les hommes. Elle se construit dans une alliance forte avec la Vierge Marie, avec laquelle un contrat lie chacun, pour devenir ainsi totalement un instrument du bon Dieu. Le sommet de la spiritualité de Schönstatt est l'amour du Père Céleste. Cela marquera Karl à tout jamais. Il considère que son voyage là-bas sera un tournant dans sa vie d'apôtre au service de la jeunesse. Il note que le travail sérieux commence pour lui alors, je cite, « Quelle attitude adopter face à Hitler et aux nazis? Leur dressage, leur gueulerie, leur haine, impossible de les partager. Je ne suis pas moins allemand, j'aime ma patrie, mon pays natal, mais en tout premier lieu, je suis catholique. » Bien que Karl ne soit pas encore sorti de l'adolescence, son âme se meut déjà dans les hautes sphères auprès du Père des cieux. C'est là, et là seul, qu'il puise ses forces. Et il en aura besoin, car le 2 juillet 1933, les nazis confisquent les biens des organisations catholiques de la jeunesse. Au lycée, plusieurs professeurs demandent l'exclusion de Karl. Il est fustigé comme activiste catholique, ennemi de l'État. Très tôt, il est repéré par les hitlériens, de plus en plus nombreux au lycée, comme dans l'ensemble du pays. Puis il est fiché par la Gestapo. Loin de le démoraliser, l'adversité stimule sa détermination. Il continue de plus belle à la tête de ses groupes de jeunes. En août, il organise un camp à l'île Baltrum en mer du Nord. Vous voyez, il ne se décourage pas. Puis c'est sa dernière année scolaire. Il va passer son bac fin janvier 1934. Élève sérieux et travailleur, son travail est irréprochable. Ce qui est interdit au lycée de l'expulser, malgré l'envie des professeurs qui ont épousé l'idéologie nazie. Karl méprise ses domestiques et cuistres du culte rendus au Führer. Il obtient son bac avec la mention « bien », ce qui le remplit de joie. Le voilà donc à la croisée des chemins, et si Dieu le veut, il sera prêtre. Il se présente donc au collège Borromeum de Münster en Westphalie, pour y passer les 4 années d'études de la philosophie et d'une partie de la théologie avant l'entrée au grand séminaire. Au moment où il aborde la phase des études universitaires, Karl a 19 ans. Grand gaillard d'1m80, il a une carrure athlétique. Toujours souriant, il rayonne de confiance et de joie de vivre. Sa grande délicatesse vient sans doute de son imprégnation de l'Évangile. Il ne parle pas de lui et est constamment tourné vers les autres. Sa capacité d'analyse s'est affinée et recherche toujours le pourquoi des choses. Surtout, il se veut libre et il l'est réellement dans cette Allemagne sur laquelle le nazisme a posé une chape de plomb. Toute atteinte à l'image divine qu'est l'existence humaine lui est intolérable. Karl croit comme il respire. L'expression de sa foi catholique est chez lui naturelle. Son entrée au collège Borromée se fait avec l'accueil du bon abbé Winnenberg. À qui, dit-il, il doit tant de belles et bonnes choses. Le premier soir, les nouveaux étudiants ont la visite de l'évêque de Münster, Mgr Clemens von Galen, qui déploie contre le nazisme une action audacieuse. Surnommé le lion de Münster, il fut l'un des plus célèbres représentants de l'opposition de l'Église contre le régime national-socialiste. Karl apprécie particulièrement le cours sur l'histoire de l'Église et la philosophie, dont le cours est donné par Wust, professeur converti au catholicisme. Vous imaginez bien que Karl a toujours la responsabilité de plusieurs groupes de jeunes de Clèves, ville où il passa toute son enfance et son adolescence. Il est heureux car il y dispose de bons chefs, de jeunes emplis de fraîcheur et d'enthousiasme. Le père Schmein, supérieur du collège Borromée, le sollicite et lui laisse carte blanche pour s'occuper sur place des jeunes. Officiellement, Mgr Van Galen, dont nous parlions précédemment, qui était l'évêque du lieu, le nomme responsable de la jeunesse catholique du diocèse. Face à l'hitlérisme tout-puissant, l'évêque est heureux de disposer de ce jeune homme, meneur charismatique, et qui mène les jeunes vers un sommet intérieur. Il publie désormais des articles dans un mensuel. Il oppose ainsi dans ses écrits les vertus de l'amour chrétien face aux clameurs haineuses des nazis. Vous vous doutez bien que la Gestapo resserre ses filets autour de lui. Pour eux, il est dangereux, car son ascendant est extraordinaire sur les jeunes. Ses études se poursuivent. Il sent le Saint-Esprit ruisseler en son âme. Préparant son avenir de prêtre, il travaille à la prise de parole en public pour les homélies qu'il voudra faire une fois prêtre. Il cite ainsi le cardinal Fruchat de Vienne. « Le sermon doit avoir l'application de l'artisanat et la beauté de l'art. » Il n'est pas isolé au collège Borromée. Il s'y est constaté un groupe de Schoenstattiens, 12 sur la soixantaine de résidents, dont son ami Heini Thuhumberg, qui deviendra à son tour, bien plus tard, évêque de Münster. Ils se réunissent pour prier et méditer ensemble et bien sûr se soutiennent dans les épreuves de ce pays souffrant. Il devient de plus en plus difficile pour lui d'organiser des camps, mais il y parvient néanmoins. En 1936, il part pour sa troisième année à Fribourg en Breisgau. C'est une année libre où les étudiants doivent changer d'université. C'est cette année-là qu'il vivra quelque chose de fabuleux. Il réalise son rêve en allant à Rome avec deux amis. Ils vont vivre d'incroyables péripéties dans cette Italie, elle aussi en plein remous. Le père Noppel, l'un de ses professeurs, avait été recteur de la faculté de théologie germanophone à Rome. Il remet à Karl une lettre de recommandation pour le pape. Les trois jeunes se promènent donc à Rome où ils sont arrivés et comme tout touriste visitent la ville. Soudain, une puissante limousine s'arrête à leur côté. « Seriez-vous par hasard Leisner, Koekmann et Terhorst ?» Les trois jeunes hommes sont abasourdis et cloués sur place. L'inconnu, vêtu de rouge, est le cardinal Caccia. Il les invite à déjeuner à la secrétaire d'État pour le lendemain. Puis pressé, le cardinal repart aussitôt. Le père Noppel, ami du cardinal, lui avait fait part du voyage de trois de ses séminaristes à Rome. Lui-même en avait parlé au pape Pie XI, qui souhaitait le recevoir. Il rencontre alors le pape qui pose de nombreuses questions sur la jeunesse allemande. Karl est dans son élément. Il décrit l'enthousiasme de ces jeunes catholiques et les graves difficultés qu'ils doivent surmonter. Le lendemain, ils assistent à la messe pontificale. C'est un moment de grande émotion pour Karl qui éclate en sanglots. De retour à Fribourg, il s'installe dans une famille de 9 garçons dont il aura la charge de temps en temps en échange d'un toit et de repas. 6 garçons deviendront prêtres. Une jeune fille, Elisabeth, plaira à Karl, pour lequel la vocation sera néanmoins la plus forte. Elisabeth le sait bien et le confortera dans cette voie. Vous lirez dans les livres sur lesquels je m'appuie le réel discernement qu'il a dû faire pour savoir quelle était sa vraie vocation. C'est très touchant à lire. En mars 1937, Karl est convoqué au service du travail du Reich. En s'y rendant, il lit la toute récente encyclique de Pie XI contre le nazisme. Il est affecté à l'assainissement des marécages dans le nord de l'Allemagne. Les longues stations jambes nues dans l'eau boueuse, ajoutées aux baignades dans l'eau froide des rivières et les nuits sous la tente à même le sol, ont causé des rhumatismes qui s'aggravent au point de déclencher 2 ans plus tard la tuberculose. Karl rentre faire sa dernière année avant l'entrée au grand séminaire et revêt la soutane. Il aspire à être un saint et n'oublie pas que sa foi a été transmise par sa chère maman. Le 25 mars 1939, il est ordonné diacre, mais sa santé se détériore et il doit impérativement reprendre des forces au sanatorium. La déstabilisation en Europe est de plus en plus importante en Allemagne et en Europe. L'attentat contre Hitler condamne Karl. En effet, apprenant par un camarade dont il ne se méfie pas, que le Führer sort indemne de cette tentative d'assassinat, Karl spontanément dit « Schade », ce qui veut dire « dommage ». Ce propos est aussitôt rapporté à la direction du sanatorium. Le soir même, Karl se retrouve grelottant de froid dans une cellule humide de la prison de Fribourg. Il est ainsi puni pour avoir dit ce qu'il pensait. À Noël, il reçoit dans sa prison un petit colis avec le cingulum, la ceinture des vêtements sacerdotaux. C'est Élisabeth qui le lui a confectionné. Élisabeth, dont nous parlions précédemment, qui était dans cette famille de 9 enfants et dont il était sans doute tombé amoureux. Elle y a brodé 2 mots, « Victus Christi », prisonnier du Christ. Le 16 mars 1940, Karl est interné à Sachsenhausen après 120 jours de cellule. Avec d'autres déportés, il est accueilli par des nazis qui le rouent de coups. Il n'est plus une personne humaine, mais le matricule 17520. Compté parmi les malades, Karl est auxiliaire de bureau à l'accueil des nouveaux déportés. Un jour, il enregistre un diacre polonais, Kazimir Majdanski, futur évêque de Stettin. Le 13 décembre 1940, Karl fait partie des déportés prêtres et séminaristes en route pour Dachau. Himmler a décidé d'y regrouper les prêtres pour les exterminer après la victoire. Sa santé s'y détériore gravement. Certains proposent qu'il demande l'autorisation à son évêque d'être ordonné, car sa santé déclinante laisse peu d'espoir pour une guérison. Se met alors en place une chose inimaginable dans ce camp de concentration. Et cela, je ne vous le révélerai pas, afin que vous puissiez le découvrir dans les livres de Joachim Schmidl et de René Lejeune. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je ne vous raconterai pas ça ? Parce que cela doit être lu, goûté, vécu aux côtés de Karl Eisner. Car si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous êtes toujours loin, là, c'est que vous avez trouvé un intérêt à l'histoire de ce jeune homme. Alors je vous laisse découvrir ce qu'il se déroula le 17 décembre 1944 et après, car l'histoire ne se termine pas dans le camp de concentration. Je rappelle les titres des livres qui m'ont servi de support pour vous parler aujourd'hui de Karl Eisner. Karl Eisner, martyr du nazisme. Le prisonnier du bloc 26 de René Lejeune, chez Pierre Tecky, éditeur collection Les Sentinelles, et Bienheureux Karl Leisner de Joachim Schmidl, chez Pierre Tecky, éditeur collection Les Témoins de l'amour. Alors, chers auditeurs, bonne lecture et à dimanche prochain.